Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Vous écoutez le 73e épisode que nous enregistrons le mercredi 7 février. Dans Tech Café, vous le savez, on parle de tech, de tous ses usages. Vous le savez également, tous les liens sont sur techcafé.fr ou dans les notes de l'émission et vous pouvez bien entendu réagir en commentaire sur techcafé.fr. Et puis évidemment, si vous l'avez pas déjà fait, vous pouvez ajouter l'émission à votre lecteur de podcast favori pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Salut à tous, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tech Café. On inaugure ce soir une nouvelle voix que vous n'avez pas eu la joie d'entendre dans Tech Café, qui est celle de Gaëtan. Salut Gaëtan.
Salut Guillaume, et merci pour l'invitation.
Eh ben merci beaucoup à toi de répondre présent. Gaëtan, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on pourrait évoquer les mots de CotiCast, CotiGeek, Crypto CashCast, on lâche rien. Si jamais vraiment ces quatre noms ne disent rien et si jamais je suis pas exhaustif, est-ce que tu peux dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais?
Bah écoute, je suis à la base un léger blogueur, et je tiens un petit blog que j'ai lancé il y a de ça 2 ans, qui s'appelle le CotiGeek, et l'idée c'était de parler un peu de quotidien, de tech pardon, au quotidien. L'usage de la tech dans la vie de tous les jours. Et puis, écoutant régulièrement des podcasts, et notamment le tien, c'est vrai, je me suis lancé à mon tour, et notamment dans les streetcasts avec CotiCast. Et puis depuis, j'ai pris goût. Et donc, j'ai participé à OLR, donc On Lâche Rien, un groupement de podcasters, enfin de streetcasters, pardon. Et puis dernièrement, j'ai lancé Crypto CashCast pour parler un peu des crypto-monnaies, nouvelle petite passion du moment. Pareil, juste pour décrire les crypto-monnaies pour la découverte, hein. C'est clairement juste une initiation. Voilà.
Ça tombe tout à propos parce qu'on va parler dans quelques lignes de crypto-monnaie, de blockchain, et bah c'est toujours intéressant évidemment de pouvoir échanger sur le sujet parce que c'est évidemment très nouveau, on en parle de temps en temps dans Tech Café, mais c'est toujours bien de se repencher sur ce qui évolue. C'est tout le sens de l'émission. Juste avant qu'on attaque les news, je voulais rappeler évidemment que Tech Café est disponible aussi avec votre soutien via financement participatif. Donc si jamais vous avez l'opportunité, la possibilité et l'envie de contribuer au financement de Tech Café, eh ben vous pouvez bien entendu le faire. Vous avez tous les liens sur techcafé.fr. Et puis, petite manière pour moi d'insister en fil rouge au fil de ces dernières émissions. Vous le savez, l'émission était disponible en financement participatif auparavant sur Tipeee et sur Patreon. Et j'ai décidé de manière unilatérale envers moi-même de solliciter tout le monde pour basculer tous les financements participatifs si possible sur Patreon. J'ai commencé à communiquer auprès des tipeurs. J'ai déjà exprimé un petit peu les raisons de ce changement. Et j'ai une nouvelle illustration, pas plus tard qu'aujourd'hui. Il y a une évolution sur l'application mobile de Patreon qui est vraiment bien foutue, qui permet de diffuser des stories. Donc au même titre qu'Instagram ou Snapchat, on peut diffuser en tant que créateur de contenu des stories. Et donc j'ai commencé aujourd'hui. Donc si jamais je peux vous donner une raison de plus de basculer peut-être le soutien que vous faisiez sur Tipeee, sur Patreon, et c'est que vous pourriez voir une petite story que j'ai enregistrée juste avant l'enregistrement de cette émission. Sans autre forme de procès, on va passer aux news et on va commencer avec une petite rubrique intro news fraîche, puisque hier soir, à l'heure où on enregistre cette émission, donc à peu près, au même moment hier, a eu lieu le lancement de Falcon Heavy, qu'on attendait tous, nous technophiles, un peu curieux, un peu geeks, avec beaucoup de curiosité, mais pas que, hein. Je crois qu'il y a quand même tout un pan du public autour de l'espace, autour de l'innovation technologique qui était très en attente de cet événement. Donc un lancement en grande pompe, en grand spectacle, comme sait bien le faire Elon Musk qui est derrière SpaceX, avec cette fusée complètement incroyable en trois parties, deux lanceurs qui, une fois qu'ils ont propulsé la fusée principale, se reposent à la verticale de manière synchronisée sur des plateformes. Et ce qui, j'avoue, est peut-être moi le truc qui me marque le plus dans ce lancement, c'est de voir ces deux lanceurs qui se reposent comme si c'était un miroir de manière complètement simultanée, presque à quelques, je sais pas, je crois que ça représente quelques mètres de distance, quelques dizaines de mètres de distance, ouais. Ou centaines de mètres. Et puis donc le lanceur principal qui, au-delà de l'atmosphère de la Terre, projette cette capsule qui s'ouvre et qui dévoile ni plus ni moins qu'une Tesla décapotable avec un mannequin en combinaison SpaceX qui est au volant de cette voiture. Alors c'est un moment je trouve complètement magique. Alors Alors, dans on s'attendait à peut-être, Elon Musk avait annoncé le fait que peut-être il y aurait une explosion. Il y en a pas eu. Par contre, ils ont pas réussi à récupérer le lanceur principal qui devait se poser sur une base de drone bateau, voilà, maritime. Ça s'est crashé un petit peu à côté. Bon, il y a eu un petit loupé à ce niveau-là, mais ça n'a rien entaché au succès de ce dispositif. Avec cette voiture qui, voilà, maintenant s'éloigne de nous à vive allure, telle une voiture volante de Retour vers le futur, avec ce personnage là au volant. Bon, c'était complètement incroyable. Est-ce que tu l'as suivi, Gaëtan ? Est-ce que ça t'a autant ému que moi ?
Alors, je l'ai pas suivi en direct parce que j'étais pas disponible à ce moment-là. Par contre, en fin de soirée et puis ce matin, j'ai regardé ça de manière un peu plus attentive. Et effectivement, moi, ce qui m'a vraiment épaté, c'est ce côté de retour des deux lanceurs qui viennent se poser, qui synchronisent. C'est vraiment incroyable. Et après, l'histoire de la voiture dans l'espace. Et encore, il manque le son parce qu'apparemment, il y avait également l'autoradio ou du moins une musique sur David Bowie de je sais pas quel titre qui complétait l'ensemble. Donc, c'est vraiment. C'est marrant. L'histoire de la voiture, effectivement, c'est un clin d'œil, c'est un bonus quelque part. Mais la démarche en elle-même, la prouesse technologique est quand même assez impressionnante puisque c'est une des, si je dis pas de bêtises, c'est la plus grosse fusée qui a été lancée et qui en fait est juste le début d'un projet qui va être d'amener des personnes et puis des voyageurs simplement sur Mars, si j'ai bien suivi l'ensemble du truc.
Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr, c'est les premiers prémices et ce qui est, oui, t'as raison, c'est la plus grosse jamais lancée. Et si je dis pas de bêtises non plus, c'est non seulement la plus grosse, mais celle qui est derrière elle est juste deux fois plus petite. Donc quand on l'appelle Heavy, Falcon Heavy, ça porte bien son nom. Alors le truc pour le petit clin d'œil, hein, moi j'avais réagi hier soir. On est assez vite interpellé, je trouve, par ce mannequin. Moi ça me marque. Et comme on voit à quel point cet Elon Musk est un peu zinzin, il y a qu'à voir son fil Instagram quand on le voit jouer avec son lance-flamme, avec sa tête de gamin, c'est quand même assez déroutant. Et on se dit, mais si ça se trouve, il a carrément planqué un cadavre. Alors je voyais des gens réagir en disant que c'était peut-être Xavier Dupont de Ligonnès. Je vous laisse spéculer, bien entendu.
Ou peut-être quelqu'un qui a participé au test du réglage du lance-flamme. Bon, bref.
Ouais, peut-être, effectivement. Ou c'est quelqu'un qui s'est fait virer, va savoir. Bon, voilà, ouais. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a juste quand même une question que je me posais au-delà de la blague, mais qui fait pas que sourire, parce qu'il y a quand même une vraie prouesse technologique très impressionnante. Moi, j'ai revu derrière un dernier post Instagram là d'Elon Musk qui me disait, qui affichait un morceau de la carte mère, enfin en tout cas d'un morceau de l'appareil de la Tesla là. Si je dis pas de bêtises, il y avait d'indiqué en gros fabriqué par des humains sur la Terre.
Oui, j'ai vu aussi. Oui.
Alors, il y a évidemment le côté encore une fois. Enfin, je sais pas comment dire, j'ose pas dire poétique, historico-poétique et assez magique de cette inscription, de se dire que ce truc va se balader, alors qu'il y a comme la sonde hein, qu'on connaît tous avec la plaque qui a été gravée, qui est partie dans l'espace, qui a été très controversée par les scientifiques d'ailleurs, en disant que déjà le message n'était pas forcément hyper clair, bien compréhensible, et puis surtout comment il allait être interprété. Et là, je me suis fait les mêmes réflexions, pas très longtemps, hein, j'y ai pas passé la soirée, mais de me dire qu'il y a quand même l'humanité qui a lancé ce message, qui a absolument rien validé, hein. Je pense qu'il y a à peu près aucun gouvernement qui a été sollicité pour dire oui ou non, est-ce que c'était une bonne démarche et est-ce qu'on est d'accord avec ce qui se passe. Il y a des messages qui sont envoyés, est-ce qu'ils peuvent être compris, est-ce que c'est si intelligent que ça. Alors bon, on peut spéculer un petit peu, mais je sais pas si je suis le seul, et je sais pas si ça t'a interpellé toi aussi Gaëtan, de te dire que c'est quand même une société privée, à l'initiative d'une personne, même si évidemment il n'y a pas qu'Elon Musk qui travaille sur ce sujet, il y a toutes ses équipes, mais qui ont lancé cet appareil à destination de l'inconnu et que on sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que c'est pas un peu inconscient comme démarche?
Alors, inconscient, je sais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'espace c'est un no man's land en termes de propriété ou du moins de gestion d'espace, c'est le cas de le dire, un peu comme pouvait peut-être être l'espace maritime il y a quelques siècles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut envoyer n'importe quoi dans l'espace. Alors quand je dis n'importe qui, il faut quand même un peu de technologie derrière. Mais à terme, on peut retrouver tout et n'importe quoi. En fait, donc il y a des satellites qui sont lancés autour de la Terre et puis au bout d'un moment qui viennent s'écraser avec pas mal de déchets dans l'espace. Donc c'est toute cette partie, on va dire, un peu écologique, la partie spatiale qui effectivement est un peu... Pour l'instant, il n'est pas du tout géré, et puis on a le temps avant que ça sature. Mais il y a aussi ce côté, je lance des messages au nom de l'humanité, ouais. Et sans, alors, c'est facile de, enfin, c'est facile. Ce serait compliqué de dire quel message il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut
c'est
pas clair. Dire
pour
pas
choquer. C'est forcément imparfait, ouais.
Pour pas choquer les éventuelles entités extraterrestres qui pourraient, déjà, j'espère que déjà dans la voiture, il a mis un constat. Parce que si jamais il y a un accident avec un ovni, qu'il puisse au moins là-dessus.
Évidemment.
Fait par des humains, c'est une bonne idée, mais il l'a mis en anglais. Est-ce que les, il ouais. dans plusieurs langues? Et puis il a même pas mis l'adresse Twitter ou le site web de Tesla pour qu'il puisse commander une voiture. Bref, ça manque, c'est un peu imparfait. Mais ceci dit, c'est vrai que quelque part il se Elon Musk se pose comme un comme un porte-parole de l'humanité en faisant ça.
Ouais, c'est ça. Ouais,
et je pense qu'il a ça derrière la tête, clairement.
Oh oui, connaissant, enfin ayant l'impression de comprendre le personnage, si tant est qu'on puisse avoir l'impression de le comprendre, c'est ce que ça donne comme sentiment. Et donc forcément, ça soulève plein de questions. Et puis après, je pense que tu donnes les bonnes réponses. C'est que de toute façon, bah il peut le faire, donc il le fait. Et puis bah si on a notre mot à dire, on a qu'à lui dire. Mais c'est pas si simple, je pense.
Parce qu'il a même pas demandé. Enfin, après on termine là-dessus, mais il a même pas demandé. Il aurait pu faire un sondage en disant quelle est la couleur de voiture, enfin quel modèle de voiture, puis quelle couleur vous voulez mettre dedans. Il aurait pu faire un sondage en faisant participer Twitter, enfin
bon. Après, ça manque d'un aspect participatif, tout ça. Mais écoute, après tout, il peut le faire, il le fait, et je l'imagine bien en train de nous regarder et de dire, bah ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, je fais ce que je veux, de toute façon.
C'est ça.
Écoute, sans autre forme de procès, on va passer à une petite revue autour des appareils personnels, donc ceux qui nous touchent au quotidien, les smartphones, les tablettes, mais on va essayer aussi de savoir quel sera le prochain appareil qui va peut-être tenter de bouleverser tout ça. Alors, on a quelques infos, hein, quelques stats, c'est le début de l'année, il y a toujours les instituts d'études, les résultats financiers, etc., qui se marchent dessus. Et donc, c'est intéressant d'en tirer quelques petits chiffres et quelques conclusions, essayer de se projeter un petit peu à l'avenir. Alors, il s'est vendu 2,27 milliards d'appareils en 2017. C'est moins qu'en 2016. Donc, il y a a priori une baisse d'appareils. Alors, quand on parle d'appareils, c'est à la fois les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Donc, vraiment ces appareils qu'on utilise maintenant au quotidien. Mais l'Institut Gartner projette aussi le fait que on peut s'attendre à ce qu'il y ait ce volume de vente qui augmente en 2018, mais aussi en 2019, alors sur deux gros segments. D'une part, les smartphones haut de gamme. Alors, suivez mon regard quand vous voyez les hauts du panier du côté de chez Samsung ou évidemment l'iPhone 10 et ses copains. Et puis, d'un autre côté, les ultrabooks. Donc sur le segment des PC qui lui de manière générale baisse, hein, c'est-à-dire que les ordinateurs tels qu'on les concevait et tels qu'on les conçoit encore aujourd'hui tendent à baisser. Ça fait moins 5% là en termes de vente, en termes de commercialisation. Par contre, sur la partie des ultrabooks, ça résiste très bien et ça devrait continuer à progresser. Alors un petit point aussi pour dire que sur les smartphones, si tant est qu'on avait besoin de se convaincre de ce sujet, ça représente donc 87% des mobiles tels qu'ils vont être commercialisés. Donc sur en gros 100 mobiles, il y en aura 87, ce sera des smartphones. Bon, je suis même étonné que ce soit presque pas plus, à dire vrai. Et puis un petit point aussi, un petit clin d'œil pour dire que d'ici 2021, d'après l'Institut Gartner, il y a 9% de ces smartphones qui seront compatibles 5G. Alors on va peut-être parler un petit peu de 5G plus tard dans l'émission. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvert, Gaëtan, dans ces chiffres? Est-ce qu'il y a des choses qui t'impressionnent, qui t'interpellent? Est-ce que ça te confirme des impressions qui sont de dire que ouais, bah les smartphones, on va continuer à en vendre des camions entiers et bah ça va être de plus en plus cher, et puis en même temps sur les ordinateurs, bah les gens sont plus si intéressés que ça, sauf à ce qu'il y a un côté un peu ultra portable en gardant pas mal de performances, quoi.
Alors, sur l'analyse des chiffres, je suis pas un spécialiste des prévisions, donc effectivement c'est j'étais étonné en fait de par rapport à cette prévision de croissance quelque part, et d'autant plus sur le fait que ce soit sur des produits les plus chers entre guillemets, sur les produits haut du panier. Ce qui voudrait dire que, enfin, si on fait une analyse, enfin si je fais une analyse très rapide là-dessus, c'est qu'en gros les gens sont déjà plus ou moins déjà bien équipés, et lorsque je vais renouveler mon matériel, c'est pour prendre quelque chose de plus cher, ou du moins de beaucoup mieux en termes de design ou de fonctionnalité. Et ça, je suis un peu sceptique quand même. Enfin bon, après c'est que mon avis, hein. Attention, je suis un peu sceptique. Alors peut-être qu'il y a effectivement il y a pas le détail, mais il y a peut-être toute la partie c'est quand même au niveau monde, hein. C'est pas uniquement sur l'Europe, c'est pas uniquement sur la France. Donc il y a peut-être une partie également certains pays qui accèdent par une croissance économique ou par l'implantation de ces de nouveaux modèles en fait à ce haut de gamme en quelque part, qui sont pas encore équipés haut de gamme ou qui arrivent petit à petit. Mais je sais pas, je suis un peu optimiste. Voilà, c'est juste mon
ouais, d'autant qu'on a tous un peu l'expérience, surtout là je trouve que enfin bah évidemment on essaie de tirer des conclusions de nos expériences personnelles, donc c'est forcément biaisé, mais
surtout, ouais.
J'ai quand même le sentiment que la fin de l'année dernière pour moi ça s'est marqué, donc du coup dans mon entourage, mais beaucoup par l'achat de smartphones qui sont à moins de 200 €, enfin typiquement le Xiaomi Mi A1 là, qui est ce smartphone dont on parle beaucoup sous Android One et qui est d'une performance assez dingue pour le prix que c'est. Moi j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui ont eu besoin de renouveler leur smartphone et qui sont plutôt allés taper dans ce smartphone. Bon, d'une part parce que je leur avais conseillé et qu'ils ont tendance à m'écouter, ils sont sympas, mais aussi parce que j'ai l'impression que c'est une vraie tendance aujourd'hui de se dire, ben, comme on pouvait se poser la question pour les ordinateurs ou les tablettes il y a encore pas très longtemps, je pense, de se dire, mais finalement, je fais quoi de mon appareil? Eh ben oui, je passe pas mon temps à générer de la 3D ou des films en 4K ou à jouer. Et donc, je peux avoir besoin d'un appareil qui soit plus accessible et qui va très bien marcher pour des usages classiques. Je crois que c'est aussi le cas pour les smartphones. En fait, là où je pense qu'il y a une interprétation à tirer de ce côté haut de gamme du smartphone, c'est de dire que il y aurait forcément un renouvellement du parc qui serait important en termes de nombre d'appareils, parce que la demande reste constante si jamais il y avait toujours ces possibilités d'avoir des smartphones au même prix. Mais le fait qu'il y ait des smartphones plus chers tend à encore plus exciter un renouvellement que bah, toute une partie de la population n'aurait pas besoin de faire. Typiquement, je fais partie de ces gens-là qui visent à dire « je me suis pris un smartphone dans ce segment très haut de gamme ». Objectivement, il n'existerait pas, je l'aurais pas, ça me changerait pas la vie, quoi. Mais il y a cette espèce d'effet de levier, je pense, qui fait que parce qu'il y a des smartphones plus chers, bah, du coup, il y a plus de performance, plus d'innovation, et que ça suscite encore beaucoup d'intérêt de la part des gens. Est-ce que ça va durer? Par contre, je suis pas certain.
Ah, oui. C'est quelque chose qu'on et si je peux juste pour compléter, par rapport à cette partie, bon, là, tu parles de l'iPhone 10, par exemple. L'iPhone 10 a suscité pas mal d'envie, et peut susciter même les smartphones haut de gamme pas mal d'envie par rapport aux fonctionnalités que ça ajoute, mais avec des utilisateurs qui sont des utilisateurs avertis. Je me suis fait pas plus tard qu'hier, en fait, j'étais dans une réunion, bref, avec beaucoup de monde et pas mal de personnes qui étaient équipées d'iPhone. Et lorsque ces personnes dévorent les iPhones, ils utilisent encore le code à 4 chiffres.
Ah ouais, t'as raison.
Alors qu'ils ont des iPhones. Alors j'ai vu quelques iPhone 10. C'était plutôt pour les jeunes d'ailleurs. Et par contre, une tranche d'âge, on va dire entre, il y avait des personnes un peu âgées, je vais être méchant, 50-60 ans, et qui utilisent l'iPhone uniquement en dévorant, donc ils n'utilisent pas, même pas le Touch ID, qui n'utilisent pas non plus. Enfin, c'est vraiment juste, je regarde mes mails, je téléphone et c'est tout.
Et, ouais, t'as raison.
Et ma réflexion, et puis en discutant aussi dans mon entourage avec des gens, se dire à un moment donné, j'ai acheté un iPhone parce que c'est une marque, parce que c'est un prix, parce que c'est du premium quelque part, mais les prix augmentent, tous les années les prix augmentent quand même, et les gens se disent pourquoi je devrais encore payer plus cher alors que finalement j'ai pas plus de fonctionnalités, parce que pour eux le Face ID, parce que les fonctionnalités supplémentaires ne leur parlent pas, et c'est pas du tout des utilisateurs de ces fonctionnalités là. Donc je pense que le marché risque à un moment donné de se segmenter, parce que plus on avance dans le temps, plus les smartphones sont compliqués, bon, peut-être pas compliqués à utiliser, mais ont de plus en plus de fonctions, de fonctionnalités. Il faut commencer à chercher pour trouver certains usages qu'on veut s'adapter, enfin qu'on veut pouvoir utiliser. Et les gens sont pas prêts à faire ça. Aujourd'hui, un smartphone, ça va fonctionner basiquement.
Ouais, t'as raison, il y a une courbe d'apprentissage qui est de plus en plus peut-être compliquée, même enfin j'ai pas, on se base tous encore une fois sur notre entourage,
oui,
mais
oui.
J'ai autour de moi des personnes qui sont amenées à changer de smartphone, d'ailleurs que ce soit un nouvel iPhone ou un nouvel Android, ça, le constat est le même, c'est que ça reste hyper compliqué même sur des choses très simples, les notions de iCloud ou de compte Google, déjà c'est des choses qui sorties d'une certaine sphère technophile et vraiment incompréhensible, de savoir où sont tes données, comment elles sont sauvegardées, comment sont gérées tes photos. C'est des questions hyper basiques auxquelles il y a toute une partie des gens qui effectivement ne parvient pas à répondre. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a même, là c'était évidemment des rumeurs, donc c'est toujours un petit peu compliqué de savoir ce qui va en sortir ou ce qui est du flanc, mais typiquement le 3D Touch, donc cette fonctionnalité sur les iPhones qui vise à dire qu'il se passe quelque chose de différent si on appuie un peu plus fort sur sur l'écran. Ce serait même, d'après les rumeurs, une fonctionnalité qui pourrait être écartée de certains produits qui sortiraient cette année, parce qu'on se rend compte que c'est une fonction qui n'est pas comprise, qui n'est pas utilisée, pas suffisamment en tout cas. Moi, je sais que je m'en sers beaucoup et que bah j'ai l'impression que ça me manquerait si je l'avais pas, mais je suis pas certain que ce soit représentatif de l'immense majorité des gens qui ont des smartphones qui sont compatibles avec ce type de fonction, quoi.
Exactement, je suis de même avis que toi.
Donc, à suivre sur ces fonctions. Et après, la réflexion que je me faisais, c'est est-ce que c'est pas vrai pour tous les produits ? Est-ce que la personne qui aujourd'hui achète une Porsche, une Tesla, enfin une voiture hyper équipée haut de gamme, va se servir de toutes les fonctions ? Si jamais tu prends une voiture avec une déclinaison, avec une série hyper bien équipée, est-ce que finalement tu te sers de toutes les fonctions ? Ah, je suis pas certain non plus. Mais enfin bon, c'est
faut tester. Écoute, je vais tester une Porsche pour Coticast et puis je vous tiendrai au courant.
on est prêt à s'investir.
Ou sinon, faut demander au mannequin dans l'espace ce qu'il en pense de ses options.
Pourtant, on lui rappelle en permanence don't panic sur la
tablette. Plus, oui.
On continue avec les appareils, puisqu'il y a un segment d'appareils qu'on regarde toujours un petit peu de travers, un petit peu bizarrement, ou alors avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme. Ce sont ces appareils portés, donc les wearables, pour ceux qui aiment utiliser la terminologie anglaise. Donc là aussi, quelques petits éléments de chiffres, puisqu'on a toujours en tête le fait que l'Apple Watch, c'est un produit qu'on remet dans son tiroir, qu'on n'utilise pas et qui ne bénéficie pas de scores de vente complètement incroyables. Et c'est peut-être vrai, mais il y a quand même des éléments à soulever. En fait, dans les résultats d'Apple, l'Apple Watch fait partie d'un segment qui s'appelle « autres produits ». Donc dans la catégorie fourre-tout, c'est parfait, on peut y mettre ce qu'on veut, on peut y mettre des iPod Touch, on peut y mettre des écouteurs, on peut y mettre plein de choses. Mais cette partie-là, autres produits, elle est en progression importante de plus de 10% en 2016 et plus de 15% en 2017. Et même sur la période de Noël, donc de Noël 2017 à Noël 2016, c'est une explosion, ça représente 36% d'augmentation. Les appareils portés là comme ça, ils ont gagné 70% en un an. C'est la deuxième ligne de croissance chez Apple. À ton avis, Gaëtan, est-ce que il y a un engouement généralisé sur les appareils portés qui justifie ce 36% d'augmentation entre deux Noël? Est-ce que c'est l'effet AirPods? Parce que franchement, moi, j'ai l'impression que les AirPods, ça a été un cadeau idéal pour ceux qui avaient réussi à en avoir au pied du sapin en fin d'année. Il était largement plus dispo et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont attendu et qui l'ont offert. C'est un beau cadeau. Ou est-ce que tu penses que c'est les Apple Watch? Ou est-ce que c'est les Apple Watch? Je sais pas comment je dois dire pour avoir un bel accent anglais. Ou est-ce que tu penses que c'est un ensemble de tout ça?
Alors, bonne question, professeur.
Non, plus Madame Irma.
Madame Irma. Non, plus sérieusement, effectivement, les AirPods, je pense ça a bien cartonné puisque la disponibilité est toujours compliquée encore aujourd'hui, sauf erreur de ma part pour en trouver.
Ouais.
Donc déjà, il y a plus de demandes que d'offres. Donc ça se vend bien automatiquement. Deuxième chose, la partie Apple TV, je pense qu'aussi avec l'Apple TV 4K et puis l'évolution de ce qu'ils ont fait dernièrement en termes de, je pense que ça pousse aussi à en vendre un petit peu plus qu'ils pouvaient s'en vendre avant. Et puis avec la partie également HomeKit, enfin domotique, en fait l'Apple TV peut servir de base domotique. Donc je pense que tout ça peut, même si c'est pas le principal de leur vente, hein, bien évidemment. Et pour terminer sur l'Apple Watch le troisième du nom, enfin troisième série 3, je ne l'ai pas, je suis toujours sur la première, toute première génération, mais de ce que j'en entends, c'est que c'est le produit qui est vraiment abouti, qui est vraiment arrivé à maturité par rapport aux fonctionnalités qu'il voulait apporter. Et je pense que c'est en train de... Il y a pas mal de renouvellement de gens qui s'y sont mis à l'Apple Watch, et je pense qu'il y a pas mal également de renouvellement sur les séries précédentes. Donc déjà ceux qui étaient déjà convaincus, plus des nouveaux utilisateurs. J'en vois de plus en plus autour de moi, dans un entourage non geek, non tech, dans la vie de tous les jours. Et c'est la réflexion que je me suis faite en me disant bah ça y est, c'est en train de se démocratiser.
Juste avant de te laisser terminer, moi encore une fois, hein, c'est toujours le constat des proches, donc c'est compliqué. Mais pareil, moi je faisais partie des hurluberlus qu'on avait en 2015, et maintenant je vois des collègues qui subitement, tiens, du jour au lendemain, arrivent avec, quoi. Donc on voit une petite évolution quand même.
Exactement. Et puis juste une petite remarque, une petite réflexion par rapport à l'Apple Watch que je me suis faite, c'est que cette Apple Watch était avant l'iWatch qu'on appelait. Dans les rumeurs, donc Apple avait, il y avait pas mal de rumeurs sur le fait que Apple travaillait sur le lancement d'une montre. Et ils ont pris le temps. Ce qui fait que la concurrence s'est précipitée, tous se sont précipités pour sortir eux-mêmes leur première, alors c'est tous sur Android principalement, Motorola notamment, enfin tout le monde s'y est mis. Apple est arrivé un petit peu après les autres, avec une montre qui au départ était même déceptive en termes de forme, parce qu'avec les rumeurs, les fantasmes de designers imaginaient une montre ronde, enfin des choses dans tous les sens, ce qui fait que le modèle a été un peu déceptif du moins par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Mais aujourd'hui, dans le marché, Apple Watch est en train d'écraser tout le monde et Android, au niveau des montres Android, c'est en train de petit à petit, de moins en moins qui reste sur ce marché. Et c'est en train de, alors je dis pas que c'est totalement disparu, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y a moins de folie autour de ce segment-là.
Ouais, les chiffres tendent à montrer que quand même ils écrasent pas mal le marché avec l'Apple Watch par rapport aux autres montres connectées. Si tant est que ce soit un marché qui soit suffisamment grand sur lequel on puisse faire des comparaisons, mais c'est rigolo par contre que tu reparles de cette perception au lancement, parce que je me rappelle effectivement de la keynote de l'annonce de l'Apple Watch et même le fait que j'ai passé du temps le lendemain, ça m'arrive pas trop souvent normalement, sur le site d'Apple pour voir un peu la description de l'Apple Watch et de me dire. Bah effectivement que je la trouvais moche, je la trouvais épaisse, je la trouvais carrée, même si les coins étaient un peu arrondis, je la trouvais pas élégante, comparée à des motos 360 qu'on voyait avoir fleuri effectivement avant et qui étaient plutôt élégantes comme montre, qui avaient leurs défauts mais qui étaient élégantes, et puis je voyais ce segment de prix qui était pour moi rédhibitoire, je me disais mais hors de question le prix pour un appareil comme ça, en plus tu mettais certains bracelets, tu voyais la facture qui grimpait comme pas possible, et c'était complètement déroutant, et force est de constater que ça tient, et même que ça progresse.
Donc, exactement, ils sont partis lentement, mais ils y sont arrivés, et en plus quand ils avaient annoncé la montre, il y avait un délai de, ils l'ont annoncé 6 mois avant le lancement, de mémoire,
ouais.
Et en disant en batterie ça tiendra une journée, le truc c'était tout pour me dire, mais c'est pas possible, ils ont rien compris, ils vont se, c'était que mon avis, mais beaucoup d'analystes disaient, mais ils vont se fracasser, ils arrivent trop tard, ils innovent pas sur le truc, et puis finalement, ils tiennent dans la durée. Ils ont fait avancer leur produit petit à petit, comme de toujours. Et puis aujourd'hui, ils continuent à résister par rapport à ça. Et apparemment, les ventes, ça y est, c'est sans communiquer dessus, mais on peut penser quand même que ils continuent à. Alors, juste une remarque par rapport à l'évolution aussi. Il y a peut-être le prix des bracelets, effectivement, qui viennent peut-être booster ça, parce que c'est des tarifs qui sont assez prohibitifs aussi là-dessus.
Et pourtant, c'est tellement facile d'aller voir d'autres vendeurs en ligne qui proposent ça à des tarifs défiant toute concurrence. Alors, peut-être que là aussi, on a une perception qui est un peu biaisée, c'est qu'on avait été habitué à certains produits. Alors attention, ça fait toujours bien de placer ça dans des conversations sur la tech, disruptifs. Donc, ne serait-ce que l'iPhone qui arrive, qui tombe et qui bouleverse. Il y a un avant et un après pour les smartphones. La tablette, pareil. D'autres produits sur d'autres segments. On était un peu habitué à ces produits qui bouleversent la donne presque du jour au lendemain. Et puis, je me rends compte que sur plein de nouveaux dispositifs technologiques, que ce soit les qualités d'écran, que ce soit les produits portés, mais peut-être plein d'autres produits là qui ne viennent pas en tête, ce sont des progressions qui ne sont plus aussi soudaines, et c'est intéressant de voir que les choses s'installent un peu. Et quand on pense à ça, on pense inévitablement, ça va me servir de transition, au Google Glass, qu'on s'attendait là aussi à être soit quelque chose de dingue, soit achevé de nous convaincre que franchement on n'en voyait pas le fait que ça allait se commercialiser facilement. L'histoire a montré qu'évidemment les Google Glass tels qu'on les a tous vus n'ont pas obtenu le succès qu'on aurait pu imaginer qu'elles puissent avoir dans un monde idéal. Mais l'idée des lunettes connectées n'est pas abandonnée. Non. Et de manière persistante, il y a des annonces, et donc notamment du côté de chez Intel, qui a auprès de qui on a vu les ventes. Alors je le prononce peut-être très très mal. C'est VAUNT. Je sais pas si c'est d'origine allemande ou je sais pas.
Compte pas sur moi pour les accents.
Les ventes. Et qu'est-ce que c'est que les ventes ? Alors ce sont là aussi des lunettes. On va dire connectés, ou en tout cas sur lesquels il y a une forme d'interaction. Donc pour rappel, les Google Glass, il y avait un petit cube dans lequel il fallait qu'on pointe le regard dans le coin pour essayer de voir des informations. C'était assez intuitif, paraît-il. Je les ai jamais essayés, mais il paraît que c'était plutôt intuitif. Là, l'idée, elle est assez différente. C'est au lieu de vous afficher des informations avec une résolution relativement détaillée, ça va être une information avec une résolution assez faible, avec un laser qui va ni plus ni moins que de projeter l'information dans votre rétine. Donc vous allez avoir une petite information qui va arriver en surimpression de votre vision. Alors laser et regard en général, ça fait frissonner. Là, il semblerait que le laser, ce soit un laser qui soit vraiment pas dangereux du tout et tout à fait calibré pour ce type de besoin. Et on imagine que s'ils proposent ce type de solution, c'est qu'ils sont aptes à dire que c'est pas dangereux. Et là où c'est différent en termes d'approche par rapport au Google Glass, c'est que c'est un dispositif qu'on peut intégrer finalement dans plein de lunettes. Donc ça devient limite une option chez l'opticien quand tu vas commander ta nouvelle paire avec tes verres correcteurs. Bah tu vas y rajouter l'option Vent qui va rajouter un peu d'interaction. Et tu as cette information donc qui va pouvoir être ajoutée. Alors je sais pas, j'ai pas bien compris. Je pense qu'il faudra évidemment voir un peu plus en détail, savoir si c'est vraiment du côté des deux yeux, s'il y en a qu'un seul, si jamais synchronisé. Enfin, il y a plein de questions à se poser. Moi, la première question que je me pose quand même, c'est que c'est très intéressant en termes de dispositif, d'approche, de voir ça évoluer. Mais par contre, est-ce que ça va servir à quelque chose, puisqu'a priori, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas possibilité de répondre à cette information qui t'est envoyée. Ça peut être pratique pour te dire que tu as un SMS, pour te dire que tu dois tourner à droite, à gauche. C'est pratique à intégrer, puisqu'a priori, donc c'est pas un produit fini, comme je le disais, mais c'est un dispositif avec un kit de développement qui pourrait s'intégrer un peu partout. Mais je regarde quand même un peu ça en me grattant la tête et en me demandant, mais... à quoi ça va servir? Moi, si c'est pour m'afficher des SMS ou me dire de quel côté je dois tourner, j'ai vraiment pas le sentiment que ça pourra m'apporter quelque chose. Est-ce que t'as vu le truc passer, Gaëtan? Ouais. Et est-ce que t'y vois un potentiel plus que moi?
Alors, autant, effectivement, les Google Glass, ils sont partis très fort, très loin et peut-être trop vite et trop loin. Autant là, l'idée est pas mal parce qu'on se dit effectivement, c'est un dispositif qui est assez léger, qui peut s'intégrer apparemment sur des lunettes classiques. Pourquoi pas? Mais par contre, alors, je crois aussi, si j'ai bien lu, c'est également, ça vient en complément d'un smartphone. En fait, c'est le smartphone qui va afficher qui va donner les informations, qui va les envoyer en Bluetooth. Donc, c'est complémentaire. Donc, c'est très bien technologiquement. L'idée est pas mal. Par contre, effectivement, si on peut pas interagir, si on peut pas enlever les interactions, donc j'ai mes lunettes d'un seul coup, j'ai un SMS qui, en même temps, j'ai tourne à droite et puis j'ai quelqu'un qui m'appelle. On a intérêt à bien trier ces notifications, parce que ça va vite être compliqué. Donc, ça peut être pas mal dans certains usages particuliers, peut-être dans un monde professionnel, dans le cadre... Alors après, faut réfléchir, mais pourquoi pas? On va dire pourquoi pas. Pour le grand public, pour monsieur, madame, tout le monde, là, pour l'instant, c'est peut-être trop tôt pour trouver un usage. En plus, je suis pas très bon là-dessus. Mais quelque part, on revient sur la montre connectée. Ça devient la lunette connectée, mais uniquement pour consulter de l'information et sans interagir. C'est un peu bon, à voir. Moi je dis c'est juste à voir. Par contre, j'ai juste une petite remarque. Alors c'est concernant Intel, c'est la première fois qu'Intel se lance dans du matériel, sauf erreur de ma part.
Alors bah ils sont évidemment très présents dans le matériel sur les composants, ça.
Oui
ça,
oui
on
non
sait
mais
tous.
Oui, ça, oui.
Et peut-être qu'effectivement il y a des choses qu'on n'a pas en tête, ni toi ni moi. Je serais pas capable là de citer un produit. Il me semble qu'évidemment ils bossent beaucoup sur des justement sur des éléments d'intégration, que ce soit pour les voitures, pour les ordinateurs bien évidemment, les smartphones. Mais t'as raison, je suis pas au courant d'un produit fini qu'aurait proposé Intel. Après là j'ai pas l'impression non plus que ce soit un produit fini quoi. Encore une fois j'ai l'impression que c'est une composante qui peut se rajouter et qui serait mise à disposition des constructeurs avec un kit de développement. Peut-être t'as raison, peut-être qu'on oublie un produit qu'aurait pu proposer une telle un peu clé en main quoi. Et d'ailleurs en tout cas si vous avez des choses en tête à ce sujet-là, vous qui nous écoutez, déposez un commentaire techcafé.fr pour nous ouvrir nos chakras sur le sujet. Nous ouvrir les yeux. Merci.
Avec les lunettes.
Bien sûr. Évidemment, la boucle est bouclée. Un petit mot sur les Mac avec des chiffres de vente en termes de volume et de valeur d'ailleurs hein, qui sont pas forcément bons puisque Noël 2017 versus Noël 2016 ça a baissé de 5%. Alors il tempère en disant oui mais bon si on regarde les exercices commerciaux il y a une période de 7 jours de différence donc finalement ça fait pas tant que ça de différence. Bon. En gros, au mieux, ça stagne, quoi, les ventes de Mac. Par contre, il y a un bon point pour Apple, c'est que 60% des gens qui se sont équipés de Mac sont des nouveaux venus, donc des nouveaux utilisateurs de Mac qui n'en utilisaient pas avant. Et il y a même certains endroits, notamment en Chine, c'est de l'ordre de 90%. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui s'équipent soit pour la première fois d'un Mac, soit qui avaient auparavant bah, du Windows ou un autre système et qui s'équipent pour la première fois d'un Mac. Évidemment, on le sait pour Apple, à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui utilise un macOS ou un iOS, ce sont des chiffres qui vont gonfler derrière en termes de vente. On sait que c'est souvent des profils qui consomment beaucoup et donc forcément pour eux c'est très intéressant. Au niveau mondial, ça représenterait au global hein, 10%, enfin en fait il parle d'une croissance à deux chiffres, alors on sait pas combien, on peut dire au minimum 10% au moins de nouveaux utilisateurs de Mac qui donc vont être là pour consommer. Alors, là encore, ça va être un petit peu au jugé et au doigt mouillé à notre entourage, mais si on regarde, moi j'avais un petit peu l'impression qu'il y avait un engouement autour des Mac, et là un vrai désintérêt de la part de plein de monde qui finalement se contente parfois d'un Linux, parfois, même si c'est plus à la marge, d'un Chrome OS, ou de très bonnes solutions sous Windows 10 qui sont parfaitement satisfaisantes pour l'instant. Est-ce que toi, ces chiffres confirment un petit peu la perception que tu peux avoir, à savoir que le Mac revit une belle progression en termes d'utilisateurs, ou est-ce que tu regardes ça avec aussi en te grattant la tête une fois de plus?
Oui, non. Comme ça, t'es bien avancé. non, en fait, ce que je m'étais dit, c'est par rapport à la baisse, effectivement, de ventes par rapport à l'année dernière. Alors, l'histoire de la semaine de Noël, ça les a pas dérangés pour vendre plus d'Apple Watch. Donc, c'est comme ça les arrange en termes de chiffres. Par contre, l'année dernière a été lancé le MacBook Pro avec la fameuse,
La Touch Bar.
La Touch Bar. Donc, qui était quand même assez, révolutionnaire, ou du moins, je pense qu'ils a fait un peu booster en termes de vente sur le renouvellement des MacBooks. Là, c'est juste des renouvellements de génération en 2017, donc il n'y a pas de raison de changer pour ceux qui étaient déjà équipés. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins de renouvellements pour ceux qui sont déjà équipés. Alors, c'est juste comme ça, c'est comme tu dis, ça doit mouiller, hein, mais c'est une réflexion que je me suis faite. Et après, les nouveaux utilisateurs, oui, je pense que quand on touche à l'iPhone, à iOS, etc., les services iCloud, tout ça donne envie ou peut donner envie d'aller sur des produits un peu plus chers, donc tout ce qui est Mac. Et c'est vrai que c'est des beaux produits. Donc quand on rentre une fois dans, je pense, quand c'est leur stratégie globale, quand on rentre une première fois dans un Apple Store, peut-être pour demander, je me suis acheté un iPhone, j'ai du mal à configurer tel service. Les génius. Donc, va être super top pour expliquer comment ça fonctionne. Puis, pendant qu'on regarde le fonctionnement, on voit à côté des super ordinateurs, on voit des super produits. Et puis, je pense qu'avec le temps, y a des gens qui se laissent convaincre.
Donc, ouais, c'est sûr.
C'est pour ça que sur des nouveaux utilisateurs, c'est leur stratégie globale d'Apple Store. Pour moi.
Non, je te rejoins. On va boucler du coup avec deux autres grandes notions, on va dire, autour de nos appareils du quotidien. Alors, une notion qui nous touche directement, je vais livrer un petit peu les news en vrac et puis je te laisserai, Gaëtan, réagir sur ce qui te parlera le plus ou sur l'ensemble si tout te parle. Donc, juste un premier mot pour dire qu'Apple a annoncé au travers d'un communiqué de presse et a dévoilé pas mal d'images autour d'une messagerie professionnelle business chat. Donc, quel est l'intérêt? C'est très simple, c'est là où aujourd'hui vous sollicitez votre banque via par exemple Facebook pour leur parler de vos petits soucis. Eh ben, on vous propose autre chose, c'est tout simplement d'utiliser Business Chat qui serait intégré à iOS et qui vous permettrait de solliciter votre banque parce qu'elle serait partenaire et qu'elle utiliserait la solution. Donc un système de messagerie instantanée avec laquelle vous pourriez converser avec des commerciaux. Donc ça, c'est une petite évolution qui serait proposée, à voir si ça pourrait rencontrer du succès. Alors il y a quelques entreprises américaines partenaires pour l'instant, on imagine que ça va s'ouvrir au fur et à mesure. Le deuxième sujet, c'est là aussi lié à cette espèce de dialogue, en interaction notamment en support avec les chatbots qui ont un vrai problème, et je pense que tout le monde a un peu été déçu par cette espèce de vague de chatbots qu'on nous annonçait qui sont extrêmement déceptifs. On nous dit, je suis pas sûr que ce soit le seul problème, mais il y a un labo chez Facebook qui nous dit que la raison pour laquelle ça ne rencontre pas un succès de dingue, c'est parce qu'ils ont pas de personnalité, ces chatbots. Et c'est assez intéressant, vous pourrez regarder l'article derrière dans les notes de l'émission, mais il y a toute une démarche qui s'appuie aujourd'hui sur de l'apprentissage profond basé sur un recueil de données. Alors ça se base sur Amazon Mechanical Turk là, qui est en gros un système qui permet de demander des tâches automatisées, et il y a 160 000 lignes de code qui ont été générées par des gens qui se sont proposés via cette interface pour donner à chaque fois 5 éléments de personnalité pour qu'on recueille des personnalités. Et l'idée, c'est bah, justement sur la base de ces personnalités d'arriver à permettre à ces chatbots de pouvoir se faire passer pour quelqu'un. Alors soit parce que ils ont des animaux, soit parce qu'ils aiment bien regarder certaines séries, soit parce qu'ils aiment faire tel ou tel sport. Donc c'est intéressant de voir en tout cas la démarche, même si je suis pas certain qu'encore une fois cette histoire de personnalité soit à l'origine de la non-utilisation des chatbots. Et puis on continue encore une fois à parler de messagerie avec Telegram, qui s'est fait retirer de l'App Store assez brièvement, puisqu'en fait ils ont été absents juste je crois quelques jours, parce que il manquait certaines fonctionnalités, notamment celles qui permettent de signaler un contenu sensible, et il semblerait qu'il y ait eu des contenus qui soient de l'ordre de la pédopornographie qui est circulé sur Telegram, et évidemment ça a créé des émules. Là je me suis demandé, j'étais un peu interpellé de me dire, est-ce que c'est vraiment la première fois que ça arrive, ou est-ce que c'est des trucs qui ont été particulièrement dégueulasses qui ont circulé. Bref, ils ont corrigé ce manquement aux applis et ils l'ont réinstallé, ce qui est quand même pas neutre pour cette application qui se veut fondée sur des principes totalement libertaires, de se plier à des règles telles que celle-ci. Mais c'est quand même, je trouve, très bien au final. Est-ce que tu chattes beaucoup, toi, sur ton smartphone, et est-ce que l'une ou plusieurs de ces news t'évoquent quelque chose, Gaëtan?
Bah alors, les chatbots, très peu. Pour moi, les chatbots, c'est surtout principalement pour des services clients. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, savoir que le chatbot, il a un chat chez lui, ou du moins, il faire croire qu'il a un chat, ça m'intéresse pas. Sauf si je crois parler à un vétérinaire. Je suis pas, comme tu dis, je suis pas certain que ça apporte quelque chose, dès lors où on est convaincu qu'on parle à des robots, quoi, quelque part. Sur la partie vite fait, sur la partie messagerie professionnelle, je pense que c'est surtout un usage, très américain, ce genre de choses. Je me vois, enfin, j'ai pas l'impression qu'en France, il y a beaucoup de services qui soient déjà intégrés. On parle beaucoup de Twitter. Je sais que Twitter est beaucoup utilisé pour contacter les services clients, parce qu'en fait, il y a un effet aussi lorsque je contacte Twitter, un opérateur téléphonique par exemple, pour dire mais ton réseau ou j'ai un problème de connexion. Le fait qu'ils soient mis en avant sur la place publique les fait réagir beaucoup plus que si j'étais directement avec eux. Effectivement, si c'est pour un problème de banque ou un problème beaucoup plus personnel ou que j'ai pas envie d'afficher vis-à-vis des autres, ça peut peut-être servir, mais à voir dans les usages. Je suis pas convaincu.
Évidemment, gros plus, hein. Enfin bon, il y a des trucs un peu pratiques du style, ça te permet d'organiser un rendez-vous. Donc typiquement, c'est le genre de démarche. Moi, je me vois bien, tu vois, interagir par chat pour pas avoir à appeler ou un truc comme ça, pour prendre un rendez-vous avec une vraie personne dans une boutique d'une entreprise qui utilise le service. Moi, je trouve que l'usage est plutôt intéressant. Et évidemment, vous l'aurez deviné, il y a évidemment des liens possibles là-dedans pour acheter des produits avec Apple Pay. Donc vous pouvez tout très très bien vous imaginer vendre des produits, si tant est que toute l'expérience soit compatible Apple Pay, vendre vos produits avec Apple Pay dans un chat business sur un appareil iOS.
Ah ouais, effectivement. J'y ai pas pensé.
Un petit point aussi, donc, pour terminer sur nos appareils du quotidien, mais plus sous l'angle des grands ponts et des grandes sociétés qui les font fonctionner. Un petit clin d'œil à Guillaume Poggiaspala, qui pourrait nous en parler sans doute de manière peut-être bien plus complète. Alors, juste un mot, hein, pour dire que Qualcomm continue à pas aller bien, hein, il croule sous les différents litiges, les amendes de tout poil. Et il y a deux façons de réagir il y a deux façons d'attaquer Qualcomm. Il y a une carte, en fait, qui te permet de te dire à quel menu tu veux manger Qualcomm, et il y a deux grands menus. Il y a le menu Apple qui dit bah tiens, on envoie des juristes et on leur balance nos avocats dans la gueule et on leur tire des procès. Et il y a la vision plus Samsung qui eux n'attaquent pas en frontal, mais envoient plutôt des informations, des billes, des documents, des recommandations aux autorités, et donc font figure de témoins clés dans des affrontements qui pourraient y avoir avec Qualcomm. Ça marche, puisque la dernière fois Qualcomm s'est fait quand même adresser une amende de 700 millions d'euros. Donc j'imagine quand même, quand t'es à la tête d'une boîte et que tu vois une condamnation avec une amende de 700 millions d'euros, ça doit quand même te donner des sueurs froides. Et subitement, alors c'est quand même la libération, il y a un nouvel accord qui est arrivé entre Qualcomm et Samsung, et suite à ce nouvel accord, sur lequel on s'est pas vraiment grand chose, mais on a des petites idées de ce qui s'est tramé. Samsung a retiré ses témoignages et donc évidemment ça va considérablement affaiblir les éventuelles attaques qui pourraient y avoir à l'égard de Qualcomm. Alors sur les spéculations qu'on peut avoir en tête, c'est notamment le fait que Samsung travaillerait de manière très étroite avec Qualcomm autour de la 5G, donc pour mettre à disposition des appareils compatibles avec cette nouvelle technologie réseau. Alors, un autre petit mot aussi avant de te laisser la parole, si tu le souhaites, pour réagir. Je sais que c'est pas toujours le genre de sujet qui inspire beaucoup de réactions, mais si jamais tu le souhaites, tu le pourras. Du côté de Broadcom, qui eux veulent ni plus ni moins que racheter Qualcomm. Donc, ils disent, nous, ça nous intéresse, cette boîte, même s'ils s'en prennent plein la gueule. Bon, on prévoit quand même un peu d'argent au cas où il y aurait des soucis, mais on veut bien aussi racheter la boîte. Et ils avaient fait une offre en novembre de 130 milliards de dollars. Donc, c'est sans précédent dans un rachat. Et que Qualcomm a balayé, hein. Ils ont tout simplement dit non, nous on veut pas ça, on pense que c'est sous-estimé notre potentiel de croissance et on pense qu'on vaut bien plus que ça. Alors ils avaient dit Broadcom, très bien, on reviendra pour faire une nouvelle proposition. Ils sont revenus, ils ont augmenté, bon pas de beaucoup, mais de 18 milliards quand même l'offre de rachat, et ils font évidemment pression notamment sur les actionnaires qui doivent d'ailleurs voter dans une séance le 6 mars à venir pour leur dire non, mais lâchez l'affaire, acceptez le rachat. De toute façon, vous avez tout à y gagner. Bon, c'est des affaires de gros sous qu'on suivra. Je suis pas certain que ça change fondamentalement la donne dans l'écosystème technologique de nos appareils, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui se trame derrière les fabricants de puces, je trouve, derrière tout ça. Ça t'évoque quelque chose, Gaëtan, ou ça te laisse de marbre des chiffres pareils sur des...
Ça, les chiffres, à un moment donné, dans ces milieux-là, ça a plus tellement de notions de réalité. Enfin, c'est assez, on a du mal à se mettre ça dans le quotidien. On va dire.
Se rend pas compte.
Non, ouais. Par contre, c'est juste un truc, c'est que effectivement, Qualcomm se fait attaquer d'un côté par Apple au niveau juridique. Samsung, on va dire, c'est pas la dénonciation, mais donne des éléments de manière à mettre mal Qualcomm. Et bizarrement, il retire ces informations pour travailler avec eux. C'est un peu limite. C'est quand même beaucoup de pas de manipulation de marché, mais de manipulation quand même de comment dirais-je,
d'autorité,
ouais, d'autorité ou de
juridique,
de suprématie technologique, on va dire, c'est ça. En fait, pour essayer à un moment donné d'écraser l'autre, alors ce sera pas par l'innovation, ça va être à un moment donné par juridique, financier, et puis je vais pouvoir installer ou avoir une mainmise sur une technologie, non pas par de la créativité, par de l'innovation, mais différemment. Donc c'est des grands groupes, c'est des choses qui nous dépassent totalement, mais c'est toujours, je trouve ça un peu pas sain. Enfin, c'est pas, on ferait pas ça entre individus. C'est juste ma réflexion. Après, le reste, c'est de la tech.
Il y a des individus mal intentionnés aussi. Mais c'est vrai que ça prend des proportions dingues. Et puis, on voyait le truc arriver, en fait, avec les patent trolls, je pense. On a vu le truc dériver. Et là, on en est à des problèmes, des problématiques juridiques et des problèmes de rachat de ce type-là. En fait, je pense tout simplement que les dirigeants de ces boîtes-là, ils regardent Game of Thrones comme nous, quoi. Et ils sont inspirés, c'est tout.
Je crois que
c'est ça, surtout. On enchaîne avec une autre rubrique, on laisse un petit peu nos appareils personnels pour prendre un petit peu de hauteur et se plonger dans le monde merveilleux de plein d'algorithmes. Il y a plein de petites choses qui se passent autour des algorithmes et qui touchent à des sociétés qui utilisent beaucoup d'algorithmes. Vous allez voir de qui on va parler, mais je pense que vous aurez compris qu'on va parler notamment de Facebook et de Google. On va justement commencer avec Google, qui propose une fonctionnalité que je trouve a priori plutôt cool. Donc Google Flights permet d'ores et déjà de réserver des vols des vols commerciaux, hein. Et ils ont une nouvelle fonctionnalité qui va tout simplement permettre d'anticiper les retards de vol. Alors, ils se basent sur des données historiques et ils arrivent à prédire, avant même les compagnies, les éventuels retards de vol. Donc, ça veut dire que, grosso modo, tu pourrais presque arriver à te dire, bah tiens, j'ai le choix entre tel billet et tel billet, ils sont à des dates différentes, mais surtout, celui-ci, il a des risques d'être en retard. Donc, ça va quand même assez loin. Je pense que ça pourrait inciter à faire certains choix plutôt que d'autres. Et en même temps, j'imagine que ces algorithmes doivent refléter, s'ils sont pas trop biaisés, une certaine forme de réalité. Ils disent en tout cas qu'ils affichent cette type d'infos si jamais elle est fiable à plus de 80%. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui est considéré par l'algorithme de Google comme étant fiable à plus de 80%. Enfin, en gros, je pense que personne parmi nous ne peut juger de ce que représente une fiabilité de 80% ou pas. Donc, c'est un chiffre qui me paraît un peu lancé en l'air. Et puis Google dit bon évidemment vous trouvez ça comme nous très pratique mais ne vous basez pas là-dessus, c'est-à-dire que si jamais on annonce par anticipation mettons un retard d'une heure de vol, n'allez pas penser que votre vol aura effectivement une heure de vol hein, c'est que de la spéculation et ça peut ne pas être le cas. Donc ça me laisse entre-imaginer le fait que la compréhension de ce type d'outils est pas gagnée. Alors on parle souvent de l'intelligence artificielle et des algorithmes et des risques des algorithmes d'intelligence artificielle qui s'ils sont mal nourris, s'ils sont mal alimentés, peuvent amener à des situations graves, des conclusions qui changent fondamentalement la donne. Derrière ce truc anodin, il y a quand même une fois de plus la force de Google qui transparaît et le fait qu'ils peuvent carrément influencer, s'ils le souhaitent, la façon dont on consomme, la façon dont on va choisir un vol plutôt qu'un autre, et puis potentiellement influencer notre perception des choses au point qu'on va imaginer qu'il y a peut-être des retards sur certains vols, alors qu'il n'y en aura peut-être pas, quoi. Est-ce que c'est pareil, est-ce que ça t'incite à réagir? Ouais, et est-ce que comme moi, tu espères que Google va proposer la même chose pour la SNCF, surtout?
Bah écoute, pas plus tard qu'hier, je pense qu'il y a quelques chutes de neige sur la région parisienne qui ont fait des retards d'avion. Je ne sais pas si Google avait intégré le bulletin météo par rapport à ça. Mais plus sérieusement, par rapport à ça, effectivement, Google propose cette fonctionnalité. Le risque, effectivement, c'est de mettre à mal peut-être une compagnie ou un type de vol ou un type de, en basant sur des statistiques, un algorithme qui va dire, voilà, ce vol-là ou cette compagnie-là est un peu plus en retard que les autres. On considère à 80% qu'elle risque d'être plus en retard que les autres. Donc, ça peut influencer, malgré tout, la santé financière d'une compagnie, hein.
Clairement. Enfin,
si je pousse le truc un peu à l'extrême, puis en plus, ce qui me fait rire, c'est qu'ils disent, voilà, on pense, l'algorithme va vous dire que ce vol-là ou ces vols-là peuvent être en retard, mais à 80%. Donc, c'est pas sûr que ce soit en retard. Donc, c'est un peu beaucoup de, même si je pense que c'est réel, l'algorithme est réel, c'est beaucoup de choses qui sont pas prévisibles ou pas, c'est plus des stats quelque part des prévisions de stats qu'autre chose. Donc, ouais, pourquoi pas, mais bon. À voir.
Et il y a des personnes qui vont sans doute répondre le fait que après tout ça peut dégrader l'image mettons d'une compagnie aérienne hein, mais on va nous dire ouais bah, de toute façon l'image de la compagnie aérienne elle est peut-être de facto dégradée parce que de facto il y a souvent des retards de vol, mais je trouve que c'est quand même pas la même chose que d'annoncer de manière égal entre guillemets une offre enfin plusieurs offres et de constater par soi-même au travers d'une expérience client quelque chose de pas satisfaisant plutôt que Google qui nous déjà prémâche un sentiment d'expérience client négatif quoi.
Oui, c'est ça. C'est il y a toute la enfin il y a l'expérience personnelle qui rentre toujours là-dedans. Et puis le risque qu'ils vont avoir Google un de ces quatre, c'est qu'un utilisateur va prendre un avion et puis l'avion sera en retard mais Google lui aura pas dit donc il va lui faire un procès. Il faut faire un procès à clair. Google et vous m'avez pas prévenu.
Bien sûr. Non, surtout s'il y a des enjeux avec ce voyage, elle va savoir. Alors une société, donc comme je le disais, qui utilise pas mal d'algorithmes et qui est bien connue pour ça, c'est Facebook. Facebook qui n'échappe pas à la règle de parler de ses résultats, de les présenter. Alors bon, tout va bien hein, pour Facebook dans l'absolu. Les résultats sont complètement démentiels. Le quatrième trimestre 2017 en particulier. Ce qui est particulièrement notable, c'est la croissance de WhatsApp, qui effectivement, moi, je pense que je connais plus de personnes autour de moi qui, même s'ils utilisent des vieux smartphones tout pourris, n'utilisent pas ou ne sont pas joignables sur WhatsApp. Ça représente quand même, hein, là aussi on parlait de chiffres tout à l'heure, de rachats de Qualcomm qui nous font tourner la tête, qu'on a du mal à dimensionner. Quand on parle de WhatsApp, c'est 60 milliards de messages par jour, enfin le truc complètement inconcevable. Et puis par contre, au niveau bon financier, en grosso modo ça va bien. Par contre, il y a un truc qui commence à interpeller, c'est la baisse de l'usage de Facebook. Alors on est tous en train d'entendre ou de percevoir le fait, oui, les jeunes ne vont plus sur Facebook, ils vont sur Snapchat à la place. Moi j'y vais moins qu'avant parce que la fonction première c'était d'échanger avec les amis, mais maintenant j'ai plus d'infos de mes amis, j'ai des infos que des pages. Bon. On sait que Mark Zuckerberg a dit, de toute façon, on va changer tout ça, l'algorithme va être modifié, on va remonter plus d'infos et vous allez peut-être utiliser plus Facebook parce que ça va avoir plus d'intérêt pour vous. En tout cas, ce qu'on constate pour l'instant, c'est, alors, bon, j'ai un petit peu de mal à l'interpréter comme ça, c'est 50 millions d'heures par jour de baisse de consultation de Facebook sur les pages. Alors j'ai un petit peu de mal à me dire qu'est-ce que c'est que 50 millions d'heures par jour. Bon, puis quand on creuse, on arrive à voir que ça représente une baisse assez relative, hein, de environ 2 minutes par jour et par utilisateur moyen. Donc c'est pas non plus une baisse complètement incroyable qui fait que les gens auraient fui la plateforme, mais c'est quelque chose de très notable. Et entre ça et le fait que il y a une croissance en termes d'utilisateurs d'un point de vue mondial sur Facebook, mais même à l'échelle de plein de pays, qui est importante, elle est quand même pas à la hauteur de ce qui était annoncé notamment aux actionnaires, ce qui avait été anticipé. Et il y a même des baisses. Je crois même que le nombre d'utilisateurs Facebook a même baissé de 1 million, je crois, aux États-Unis. Quelque chose qui, au mieux, stagne, mais au pire, commence à baisser. Et ce qui fait qu'au final, malgré des résultats financiers complètement dingues, et une santé financière, et probablement une santé financière pour les années à venir plutôt confortable, eh bien, l'action Facebook a perdu 4%, donc plutôt un mauvais accueil. Facebook, c'est tes copains, c'est pas tes copains, Gaëtan?
C'est mes copains, pareil, pour la famille principalement, pour les amis proches, mais juste par rapport à leurs chiffres, parce que moi j'aime bien ces parties chiffres, analyse. L'année dernière, en 2016, il y avait quand même des élections américaines,
ouais,
avec toute la partie de Donald Trump, enfin avec tout ce qu'on sait en termes d'impact que Facebook aurait eu ou a eu, d'ailleurs je sais pas si on peut dire aurait ou a eu
sur les élections. Après c'est la proportion.
Donc, il y avait une vraie passion, on va dire, des Américains, des électeurs américains sur ces élections, à travers, je pense, Facebook a dû profiter de ça. Donc, comme cette année, c'est beaucoup plus calme, peut-être que ces 2 minutes passées par jour en moyenne, alors après, c'est au niveau mondial, hein, mais peut-être que ça a quand même une influence là-dessus. Peut-être.
Ouais. C'est possible, mais c'est vrai que quand on remet en perspective à chaque fois ce qui est dit, ce qui est présenté, annoncé, et puis certains faits, on arrive toujours à avoir différents niveaux de lecture. C'est intéressant.
Ah oui, tout peut être analysable. À un moment donné, on peut toujours trouver une explication là-dessus. Mais c'est vrai que Facebook, de toute façon, ils vont régulièrement, je pense, changer leur faire un coup de ménage. Donc là, ils annoncent un coup de ménage pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus propre pour revenir à l'essentiel. Et puis dans quelques temps, ils rajouteront des fonctions, puis ils feront un coup de propre, et puis de manière, c'est toujours une dynamique de renouveau pour pas s'endormir, parce que sinon c'est vrai qu'il y a
tout à fait.
Sinon c'est la fin.
Et quelle intelligence d'avoir acheté à l'époque WhatsApp, Instagram.
Ouais.
Quand on remet les choses en perspective, quelle intelligence.
C'est vrai.
Justement, un petit mot sur Facebook pour dire qu'il y a un jugement là, hein, qui va avoir lieu. Alors, il n'y a pas lieu de s'attarder plus que ça, mais juste pour mentionner et rappeler cette histoire d'un meurtre qui avait été fait le 16 avril 2017 avec une vidéo qui avait couvert le meurtre, hein, qui avait 1h45 après la diffusion de la vidéo été signalée par des internautes. Et dès le premier signalement, il a fallu quand même 23 minutes après pour Facebook pour retirer la vidéo. Ce que moi, je trouve pas complètement dingue, c'est-à-dire de me dire qu'il y a une société qui, partout dans le monde, à partir du moment où on signale un truc et que c'est justifié, bah, au bout de 23 minutes pour retirer la vidéo, à l'échelle d'Internet, c'est 50 000 fois trop long, mais en fait, à l'échelle de quelque chose qu'on peut concevoir comme humain, bah, finalement, je trouve ça assez, assez rapide. Donc, évidemment, il y a des débats. Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est pas rapide? Toujours est-il que ça a laissé le temps à la vidéo d'être dupliquée, donc elle est accessible si on la cherche, j'imagine, en tout cas d'après les papiers, parce que moi je ne suis pas prêté à l'exercice, mais disponible sur sans doute plein de plateformes vidéo, mais elle est plus dispo bien entendu sur Facebook. La famille a porté plainte pour négligence contre Facebook et le jugement devrait avoir lieu d'ici peu, donc on suivra ça bien entendu. Du côté de chez Amazon, c'est pas tant des algorithmes mais un brevet qui a fait un petit peu trembler encore une fois et écorner l'image qu'on peut avoir d'Amazon, en tout cas pour le respect de ses collaborateurs, puisqu'il y a un brevet qui est arrivé qui n'était ni plus ni moins, quand on le regarde comme ça au premier abord, qu'un outil de flicage généralisé. En gros, les préparateurs de commandes chez Amazon, on leur met des bracelets autour du poignet et comme ça, on sait s'ils sont réactifs ou pas. Et si jamais ils sont pas réactifs, on leur envoie des décharges électriques. Bon, non, c'est pas tout à fait ça. Il y a eu un démenti déjà, hein, de la part d'Amazon. Qu'est-ce que c'est? A priori, après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, bien entendu. Mais l'idée, ce serait plutôt d'aider le préparateur de commande à deux choses. D'une part, à repérer les éléments, puisqu'on peut imaginer très bien que, ayant un bracelet et un système de géolocalisation à l'intérieur d'un entrepôt, on puisse, par exemple, faire vibrer le poignet quand il s'approche du bon produit ou du bon endroit ou un truc comme ça, ou un truc qui s'approche à ce type de fonctionnement. Et puis surtout, l'idée, c'est juste de leur libérer une main, parce qu'aujourd'hui, ils ont une main qui, en permanence, peut être occupée par des espèces de scans ou des outils comme ça. Et l'idée, ce serait plutôt d'intégrer ça sous la forme de bracelet. Alors, est-ce que ces démentis habilement construits à la dernière minute par Amazon nous rassurent? Ou est-ce que ce brevet a laissé entreapercevoir un futur qui aurait pu être encore pire qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer pour le respect des collaborateurs humains? Bon, de toute façon, on sait qu'ils vont installer des robots à la place, mais comment tu l'as lu? Tu l'as lu lecture première, ça te fait flipper? Ou est-ce que le démenti t'a rassuré, Gaëtan?
Bah, ça me fait flipper, non, je travaille pas chez Amazon. Non, mais plus sérieusement, plus sérieusement, effectivement, il y a deux lectures. Il y a la lecture de comment améliorer la productivité, ou du moins l'efficacité, on va pas dire productivité, l'efficacité pour préparer les commandes, pour éviter les erreurs, et de manière à ce que peut-être que ce soit moins compliqué pour les préparateurs. Donc c'est, on va dire que c'est peut-être une idée plutôt noble par rapport à ça. Effectivement, dès qu'on parle d'un bracelet, on parle de tracker, donc on peut rapidement se dire aussi le nombre de gestes que va faire le préparateur est peut-être pas suffisant par rapport à ce que fait ses collègues, donc il sera moins performant, donc au revoir, puis suivant. Ça fait peur. Moi, la seule remarque que je me suis faite, c'est que pourquoi Amazon déposerait un brevet pour sa propre société? Alors que s'il mettait un bracelet en place, il peut le faire directement enfin, dans son brevet en interne. Ce que je me suis dit, alors peut-être que je me trompe, hein, ce que je me suis dit, c'est que peut-être qu'Amazon, son idée, c'est de développer un brevet pour la logistique, et donc pour vendre ce brevet à d'autres sociétés autres qu'Amazon. Parce qu'aujourd'hui, au niveau logistique Amazon, je pense qu'ils sont quand même pas trop mauvais. Et c'est peut-être un peu aller plus loin que uniquement que pour leur société, que leurs salariés. Ça peut être, voilà, je vous vends un produit B2B, quoi.
Ouais, et Dieu sait qu'ils savent s'y prendre, hein, sur la commercialisation B2B. D'ailleurs, ça fait une transition parfaite. Merci Gaëtan, pour dire que justement, en parlant de résultats commerciaux, du côté de chez Amazon, c'est évidemment un carton plein. C'est complètement hallucinant la santé de cette entreprise, et notamment deux axes qui avaient pas besoin d'être confirmés mais le sont quand même. C'est donc déjà plus 38% de revenus pour Amazon fin 2007. Donc une croissance sur tous les aspects, qui dépassent, hein, d'ailleurs toutes les analyses qui avaient pu être faites. Mais donc deux axes principaux qui sont particulièrement notables, c'est Alexa, donc tout ce qui tourne autour de cet assistant vocal qui, depuis qu'on l'entend, nous en tout cas en France, depuis qu'on en entend parler,
on l'entend pas en France justement.
Alors oui, on l'entend par voix interposée, mais juste pour dire qu'a priori ça a l'air de vraiment cartonner. Et puis Amazon Web Services, justement cette commercialisation de services web, notamment auprès d'entreprise, qui bondit à plus de 45%, enfin c'est complètement hallucinant. Où s'arrêteront-ils?
Ouf, si, à la hauteur de la Tesla qui est dans l'espace, peut-être.
Oui. Ils ont trouvé leur maître avec cette
histoire. Quoique, en plus, apparemment, Jeff Bezos veut également lancer des... s'est lancé également dans la course.
Bien sûr, ouais. Bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'il va mettre dans l'espace, lui? Un carton Amazon?
Ouais,
avec une étiquette de retour prépayé.
ou un Amazon Echo avec Alexa qui permette aux extraterrestres de communiquer avec nous.
Allez, peut-être.
Allez, on va passer à la rubrique en bref. On parlait la dernière fois de Pepper qui a été viré, ce robot qui ne remplissait pas la satisfaction qui était promise. C'était l'épisode précédent, je crois, de Tech Café. Mais en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui s'est fait virer. C'est la personne qui a appuyé sur le bouton pendant le CES, hein, à Las Vegas, et qui avait diffusé un message sur tous les smartphones des personnes dans le coin en informant de l'arrivée d'un missile sur Hawaï, et ce qui était perçu comme étant une erreur d'interface homme-machine. Alors, a priori, c'est vrai, mais c'est aussi peut-être un problème d'interface humaine tout court, parce qu'a priori, la personne qui était derrière cette erreur, ça faisait la troisième fois qu'il faisait cette erreur. Donc au bout d'un moment, ils se sont dit ça suffit maintenant, on veut bien te laisser le droit à l'erreur, mais peut-être pas trop non plus. Et en plus de ça, moi, ce qui me paraît dingue quand je vois des articles qui parlent de ce sujet-là, c'est de dire que le mec était a priori même convaincu qu'il y avait un missile qui arrivait sur Hawaï. Donc ça veut dire que soit on lui a joué moi j'imagine, je pense que c'est le mec, tu sais, c'est la tête de Turc dans le service là-bas, et tout le monde se foutait de sa gueule, lui envoyait des faux messages, il disait vite, il faut que t'informes tout le monde, il y a un missile qui arrive sur Hawaï. Et il a pas cherché, il a validé le truc. C'est possible, non?
Ouais, mais bref, je me dis quand même que si c'est aussi simple, enfin, si il suffit d'une seule personne pour appuyer sur un bouton pour dire attention, il y a un missile qui arrive. Enfin, je sais pas, au niveau, ça me paraît vachement light, quoi.
Ouais.
Enfin, voilà, après, mais c'est, bon. Après, c'est, moi, ça fait penser au film vieux film, hein, War Games. Film des années 80, mais ça sert à rien à voir du tout d'ailleurs.
Je me demande si je l'ai vu. Je sais plus.
À voir. Alors, ça a peut-être très mal vieilli, mais c'est à voir. C'est sur un jeune qui se connecte, c'est tout au début d'Internet, qui se connecte sur un jeu vidéo, contre une intelligence artificielle, mais en fait, il est en train de simuler le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, et ça se et tout le monde se met en panique, un peu le même système. Voilà, c'est un petit jeune dans sa chambre qui lance ça. À voir. Bon, ça c'est juste là-dessus.
Bon, ça doit être rigolo, il faudra que je jette un coup d'œil. Je suis pas sûr de l'avoir vu. Quelques petites infos autour de nos petites tutes mobiles voitures, avec plus de sécurité hein, sur les routes là, mais il y a quelque chose qui a été un petit peu clarifié et qui va faire un petit peu jurisprudence. C'est une interprétation de la loi qui pouvait y avoir jusque là, qui disait, on le sait en France, pas de smartphone au volant, sinon amende. D'ailleurs, il y a tous les streetcasters qui sont très vigilants là-dessus.
Bien sûr.
Et il y a quelqu'un qui s'est retrouvé sur le bas-côté d'un rond-point qui est pas très fréquenté d'ailleurs. Il s'est dit, j'ai pas le droit de manipuler mon smartphone au volant, c'est pas grave, je me pose, je m'arrête, je gère mon smartphone et je repars. Et sauf qu'il s'est fait choper et qu'il y a eu une interprétation par rapport à ça qui est de dire que non, ça suffit pas. Le fait d'être sur le bas-côté fait que tu es quand même pas censé utiliser ton smartphone et t'es passible de la même amende. La seule solution, c'est de stationner. Donc ça, c'était le vraiment bref sur le petit clin d'œil sur l'usage des nouvelles technos sur nos automobiles. Et puis un petit clin d'œil aussi pour dire que j'ai trouvé assez dingue que ça puisse arriver comme ça subitement sans qu'on était prévenu. Peut-être que je l'avais pas vu arriver. Mais Tupigny, alors je sais pas si vous connaissez cette belle ville de Tupigny, qui sera en tout cas la première ville française à disposer de voitures à hydrogène. Donc au gros, ils vont mettre en place un système à la Autolib, comme à Paris ou comme il peut y avoir des systèmes similaires dans plein de villes, mais avec des véhicules à hydrogène qui disposent d'une autonomie de plus de 500 km, ce qui est quand même vachement bien. Et alors le truc que je trouve vraiment top, parce que je pense que même avec des véhicules électriques à la Tesla, il y a pas ça, c'est la possibilité de recharger les véhicules avec des bornes qui seront mises en place notamment en centre-ville, qui vont être rechargées avec un parc éolien. Donc ça, c'est plutôt cool sur l'aspect respect de l'environnement. Mais le temps de recharge, il est dingue. C'est à peine 5 minutes. C'est le temps de faire un plein, quoi. C'est complètement dingue.
Ah, c'est impressionnant, ouais.
On est, Gaëtan, des fervents adorateurs, voire contributeurs de ce fameux écosystème que sont les streetcasts. Alors moi, j'envoie régulièrement mes messages auprès de certains streetcasters qui envoient des photos depuis leur habitacle de voiture en pleine circulation. Nico, arrête ça tout de suite, mais je vais continuer à le harceler. Est-ce que tu une petite réaction sur ces éléments éventuellement?
Bah après l'histoire du téléphone au volant. S'arrêter dans un rond-point, enfin c'est dans une question téléphonique, il y a un truc qui est pas très logique, enfin il y a un problème. Après effectivement le téléphone au volant, il y en a de plus en plus, enfin je vois de plus en plus qu'il y a avec des choses qui sont assez alarmantes. Bon, ça c'est du bon sens, j'irai pas plus loin là-dessus. J'ai pas plus de commentaires par rapport à ça. Par contre sur la voiture à hydrogène, là je suis assez stupéfait parce que je ne pensais pas que le modèle, enfin qu'on pouvait déjà en disposer, donc quelque part une commune qui s'équipe de véhicules à hydrogène,
c'est ça.
Il y a quelqu'un qui les commercialise. Petit 2, que ça fasse 500 km d'autonomie, c'est superbe, et qu'on puisse recharger uniquement 5 minutes, mais honnêtement ça détruit, alors je suis pas un spécialiste de l'hydrogène, mais de ce que j'en sais c'est plutôt plus écologique que de l'essence ou du gasoil, mais ça détruit totalement ça disrupte, comme ça je vais le placer également, tout le modèle aujourd'hui qui est sur la partie moteur à explosion et également toute la partie électrique. C'est-à-dire que si en 5 minutes je peux recharger une voiture qui va faire 500 km, c'est même plus rapide que de refaire un plein. Faut que je calcule, tiens, je vais chronométrer. C'est plus rapide que de faire un plein. C'est un truc de... Bon alors, juste une remarque par contre, de mettre en autolib des voitures qui peuvent faire 500 km d'autonomie, quand la voiture aura fait 450 km pour retourner à Tupigny, il y a intérêt à avoir une prise hydrogène dans le coin. Bon, ça, c'est...
Ouais. C'est l'équipement qui doit suivre après. Ouais.
Mais c'est impressionnant. Et ça se situe dans l'Aisne. Donc, c'est en Picardie, en plus.
En plus, si on peut pas être fier, dis donc.
Ah, bah, dis donc.
Mais c'est pareil, quand je regardais le truc, je me disais, c'est pas possible, c'est une fake news, je sais pas. Je trouvais ça assez génial. Et en même temps, tu sais, quelques années maintenant, enfin il y a pas mal de temps, ouais ça remonte maintenant, mais on entendait souvent les discours qui sont de dire oui il y a l'inventeur du moteur à hydrogène qui s'est fait assassiner, tout ça c'est un complot de l'industrie pétrolière, etc. En fait t'arrives à te dire non mais c'était vrai cette histoire en fait.
Il y a un vrai, alors je savais pas qui s'était fait que cette personne était décédée, je sais même pas qui c'est d'ailleurs, mais c'est vrai que de toute façon il y a un lobby aujourd'hui, enfin un lobby, il y a de l'emploi derrière, il y a pas mal d'économies, et changer ça du jour au lendemain ça va être compliqué, mais il va falloir y venir, parce que si ça vient pas par les industriels, ça va venir par les consommateurs.
Ouais, c'est
vrai. On
va pas
se leurrer. Bon.
La productivité en entreprise va s'effondrer le 31 mars 2019. Ouais. À cause de quoi? De l'arrivée de Mario Kart sur smartphone. Je pense pas, il y a quelques mois encore, enfin si, maintenant, il y a quelques mois, si, je pense, mais quelques années, jamais personne n'aurait imaginé qu'on pourrait annoncer ça. Mario Kart est en développement sur iOS et Android pour les smartphones. Je sais pas, je pense que ça laisse pas de place aux commentaires. C'est assez génial, non?
Oui, mais je comprends pas. Je comprends pas Nintendo. Ils sont en train de cartonner avec la Switch.
La Switch.
Et en même temps, ils essayent de diversifier leurs revenus. Alors c'est bien. Peut-être qu'ils ont une vision à beaucoup plus long terme qu'on peut avoir, mais bizarrement, tant mieux. Après, faut voir ce que ça va être Mario Kart. Est-ce que c'est la vraie version complète? Est-ce qu'on pourra interagir avec d'autres téléphones ou est-ce que ça va être, ou avec les Switch ou avec les DS? Enfin, avec tout ce qu'on veut. Donc, à voir ce que sera. Mais effectivement, c'est un sacré. C'est une sacrée révolution, on va dire, idéologique ou du moins de marché pour eux.
Bah, tu sais, là où je fais, moi, un parallèle comme ça assez spontanément, une entreprise puissante, reconnue dans son segment, mais qui n'arrive pas à redorer les blasons d'antan et qui utilise ce genre de stratégie, c'est Microsoft avec Satya Nadella, qui est de dire « je propose un Windows 10 qui est le mieux qu'on puisse imaginer, qui a des défauts, mais qui est vraiment une super solution. Je pense qu'on va pas critiquer Windows 10 par rapport aux solutions Windows d'avant. » Et en plus de ça, de cartonner sur là où les gens ont besoin qu'on soit, c'est-à-dire en termes de service. J'ai l'impression que Nintendo, ils ont juste compris que ce qu'il fallait faire, c'est bien faire les choses partout, et donc de cartonner avec une console intelligente qui réponde à un besoin, qui soit pas forcément la meilleure console, mais qui réponde à une vraie attente, et en plus d'être présent là où on les attend, c'est-à-dire sur mobile, après tout. Je pense enfin, je fais un vrai parallèle entre les deux.
Ouais, peut-être, je suis pas possible.
Bon, on verra. On verra ce qu'il en est sur les smartphones. Au passage, juste pour dire que ceux qui n'aiment pas la petite encoche là de l'iPhone X seront peut-être intéressés par la solution que proposerait Samsung, au moins au travers d'un brevet, pour traiter ces capteurs. Parce que s'il y a cette encoche quand même, c'est parce qu'il y a plein de capteurs. Samsung propose, eux, de mettre juste le capteur, c'est-à-dire pas une zone noire, mais juste les capteurs, et tout autour, bah, des écrans, et bah, il y aurait juste des trous au milieu de l'écran, des trous ronds pour la webcam. Je suis pas sûr que ce soit mieux, non? Tu préférerais ou tu préfères une encoche?
Moi, l'encoche me dérange pas. Alors, j'ai pas l'iPhone 10, mais de ce que j'ai vu en usage, etc., je trouve pas ça. Je pense qu'on s'habitue assez rapidement. C'est juste de l'esthétisme. Après, rechercher une solution, de toute façon, à terme, il y aura plus d'encoche. Faut pas rêver. Enfin, ils vont y arriver petit à petit. Donc, ça va être. Mais l'idée de faire des trous dans le téléphone, ouais, pourquoi pas. L'hématalphone, c'est ça? Non. Bon, bref.
Bien joué. Merci. T'as trouvé le nom de code. Alors, dans ma rubrique, ça n'a aucun sens parce que j'ai reclassé les news en même temps qu'on discute et donc ça n'a plus aucun sens. La news suivante, c'est CryptoKitties aussi. Donc, on voit pas trop le rapport, mais en fait, c'est CryptoKitties aussi par rapport à Mario Kart. Oui. Puisque ce jeu basé sur la blockchain, dont on avait rapidement évoqué l'existence, arrive sur mobile. Et au passage, Baidu copie en lançant CryptoDogs. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comme CryptoKitties, mais avec des chiens. Alors, on s'attend à quoi maintenant? Un
canard.
Crypto quoi?
Un crypto canard. Après, dans les commentaires, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Lâchez-vous.
On continue juste vite fait justement avec la blockchain pour dire que l'Europe évidemment veut pas être en reste, il y a plein de choses qui se passent à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de rappeler qu'ils investissent beaucoup au niveau de l'Union européenne sur la recherche autour de la blockchain et après tout, on peut que s'en féliciter. Des financements de projets à la hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros et puis ils recueillent quand même pas mal d'experts pour partager la manière dont on peut s'appuyer dessus. Alors, pas évidemment sous l'angle monnaie, mais plus sous l'angle certification, traçabilité, sécurité autour de différentes transactions. On sait que c'est là aussi où il peut y avoir un gros avantage. Et un petit mot avant de te laisser réagir sur ces crypto-monnaies qui probablement vont t'inspirer, pour parler de la crypto-monnaie en Islande qui va accueillir ni plus ni moins, oui, que la solution au problème écologique qui est posé par les crypto-monnaies. C'est en gros une station de minage verte, c'est-à-dire qu'elle va évidemment être beaucoup plus respectueuse de la consommation d'énergie et surtout de la manière dont on va consommer de l'énergie pour miner ces monnaies. Ça bouge de ce côté-là, c'est l'occasion rêvée de plugger Crypto Cash Cast, même si tu l'abordes effectivement, comme tu l'avais dit tout à l'heure, sous un angle de la découverte, ce que je trouve d'ailleurs hyper intéressant. Donc ça bouge sur toutes ces crypto-monnaies avec les usages divers et variés. Ça t'inspire quelque chose ?
Bah oui, enfin rapidement aussi, parce que l'idée c'est pas de faire un débat là-dessus. Le fait que l'Europe s'intéresse à la partie blockchain en enlevant la partie monnaie, c'est une très bonne chose. Dans les médias aujourd'hui, quand on parle des crypto-monnaies, on parle du Bitcoin, on parle de la bulle qui monte. On parle des dérives, on parle de tout et de, enfin pas de n'importe quoi, mais un peu des clichés qu'il peut y avoir là-dessus. Et le fait qu'à un moment donné, l'Europe, qui est une institution, se penche sur la partie, non pas monnaie, mais sur la partie... Enfin, il se penche sur la partie monnaie aussi, toute la partie régulation qui va arriver un jour ou l'autre, mais sur la partie également technologique, avec tout ce que ça peut apporter, c'est une bonne chose de pouvoir séparer ces deux aspects et de pas être... et que ce soit une institution qui le fasse. C'est ça, en fait. C'est ça qui est une bonne chose. C'est que ce soit pas des groupes privés qui soient obligés de faire un forcing... sans fin là-dessus. Donc ça c'est la première chose. Et puis sur la partie écologie, ben effectivement c'est une bonne chose aussi, parce qu'on reproche au Bitcoin notamment, enfin toute la partie crypto-monnaie de coûter cher en consommation électrique. Mais il faut pas se leurrer non plus aussi. Ça coûte cher en consommation pour la planète, mais ça coûte cher aussi en pépette. Donc si quelqu'un arrive à faire un système autonome avec du vent et du soleil, ça lui coûtera beaucoup moins cher que d'appeler EDF pour brancher une troisième prise.
Effectivement, c'est souvent d'ailleurs un argument qui est avancé par les personnes qui sont engagées sur le plan écologique, c'est de dire que c'est pas forcément que l'écologie n'est pas forcément coûteuse, mais plutôt source d'économie à la fois d'énergie certes, mais aussi d'argent. Donc c'est intéressant. Les ondes de nos smartphones sont-elles dangereuses ? Causent-elles le cancer ? Doit-on continuer à mettre un smartphone dans la poche au risque d'avoir des cancers de là où vous imaginez ? Bon, ben, on sait toujours pas formellement. La science n'est pas ce domaine où on aimerait avoir un oui ou un non définitif et formel. Mais en tout cas, il y a une nouvelle étude qui a été menée. Depuis je sais pas combien de temps d'ailleurs, mais qui a été menée et qui a montré qu'il n'y avait pas forcément de nocivité sur les rats et les souris. Alors il y a juste un truc bizarre, c'est que a priori c'est plus générateur de cancer auprès des rats que des rats, si je dis pas de bêtises. Donc juste pour dire que ça toucherait plus les hommes que les femmes, mais en tout cas non, il y a rien de significatif qui montre que les ondes pourraient être nocives. De quoi nous rassurer et continuer à nous endormir sans le mettre sur mode avion avec notre smartphone, avec le réveil juste à côté de l'oreiller. C'est ce que tu fais, Gaëtan?
En mode avion, ouais, je mets pas en mode avion, je mets en mode ne pas déranger, mais pas à côté de l'oreiller, non, pas à côté du mode oreiller, à côté de sur la table de chevet.
C'est pas très loin.
Pour faire ce que tu ne fais plus, c'est-à-dire traquer mon sommeil, voilà.
Oui, effectivement. Ah oui, tu continues.
Ah bah bien sûr, moi il faut mes tant que j'ai pas mes 2500 nuits de sommeil analysées, je pourrais pas tirer de conclusion.
Ah ouais, comme quoi je me rends compte que j'ai bien évolué. On parle on a parlé à plusieurs reprises de Windows et notamment on en avait parlé à plusieurs reprises dans des épisodes de Tech Café de Windows 10, cette solution un peu fermée, enfin beaucoup 10S. Fermée 10S, merci, oui. Très fermée, qui permettait de garantir une certaine forme de sécurité et qui avait le mérite d'exister et qui rencontre clairement pas un succès de dingue, mais qui risque de renaître sous la forme d'un mode. Donc c'est-à-dire qu'on aurait un Windows 10 dans lequel on pourrait activer une case à cocher Windows 10 S et inversement, si on a un ordinateur qui tourne aujourd'hui sur Windows 10 S, ce serait a priori super facile, alors je sais pas techniquement mais en tout cas commercialement ce serait très facilité de repasser sur un Windows 10 quitte à activer l'option Windows 10 S. Je suis pas sûr d'être très clair, mais est-ce que, enfin moi je perçois ça comme quelque chose de très positif, est-ce que ça te convaincrait d'utiliser des solutions Windows, Gaëtan ?
C'est du bon sens, enfin pour moi c'est du bon sens de vouloir lancer une version Windows sécurisée sur des produits à part avec un système, enfin le fait de pouvoir choisir sur le même système comment je veux l'utiliser, c'est un très bon sens. Maintenant Windows 10, je m'y suis mis il y a pas longtemps, les crypto-monnaies et puis le minage, parce qu'il fallait donc un système d'exploitation, donc j'ai découvert Windows 10.
Pouvais pas faire ça sous Linux?
Ça
gère moins bien. Il y a des
solutions, il y a des solutions qui existent là-dessus, mais je voulais tester ça assez rapidement pour Crypto Cash Cast, et puis je veux pas t'en prendre la tête et surtout profiter également de voir ce que c'était que Windows, enfin voir. J'ai encore Windows 7 qui traîne aussi chez moi, mais Windows 10 et ouais, j'étais assez j'étais pas trop perdu sur par rapport à Windows 7, je retrouve un peu mes petits, il y a 2-3 trucs qu'on trouve assez facilement. Après j'ai pas été plus loin dans le logiciel, et c'est vrai que désolé pour ceux qui aiment pas ça, mais depuis que je suis passé sur Mac, c'est quand même autre chose. Voilà.
Bon, chacun ses goûts et chacun ses arguments et ses avis après tout.
Voilà.
Inversement, pour prétendre à la sécurité de Windows 10 S, et ben inversement, on a le Chrome Web Store qui a priori est peut-être pas forcément l'endroit le plus sécur du monde. En tout cas, il y a 89 extensions Chrome qui ont été identifiées comme contenant des scripts malicieux de Session Replay. Donc grosso modo, en gros, ça enregistre tout ce que vous faites et ça peut le rejouer à loisir, et qui étaient rattachés avec des centres de commande, des CNC serveurs, hein, donc qui permettent de récupérer les infos et puis d'injecter des infos de récupérer sur les sites web pour essayer d'exploiter de manière
mal intentionnée
et lucrative ce genre de fonctionnalité. Donc Google les a évidemment retirés, hein, ça a été découvert par Trend Micro, donc ça a été retiré et ça a été neutralisé, mais voilà, juste un petit mot de recommandation de bonne santé informatique: évitez de multiplier les installations d'extensions de navigateurs, surtout quand vous savez pas trop à quoi elles servent. C'est peut-être pas utile d'installer une extension quand on sait pas à quoi elle sert et quand elle paraît un peu chelou, quoi.
Ouais,
mais voilà. On a fait le tour de notre rubrique en bref, et on ne peut pas terminer un épisode de Tech Café sans conclure avec une rubrique bonus. Gaëtan, est-ce que tu es venu avec un bonus dans ta besace pour cet épisode 73 de Tech Café?
Oui, je suis venu avec un petit bonus qui va faire en plus écho à ce que d'un point qu'on a dont on a parlé,
aha,
à savoir
Echo.
Echo. Ah oui, joli, Gaëtan. J'ai même pas fait exprès. Concernant Alexa. Donc, dimanche dernier, a eu lieu le Super Bowl aux États-Unis, la finale du Super Bowl. Et lors cette finale.
Événement sportif.
Événement sportif, merci.
Médiatisé.
Très énormément médiatisé. Passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité où ça coûte très cher à faire passer. Enfin, à diffuser. Et donc, dans ces publicités, est passée une pub sur Alexa, donc le produit de Echo d'Amazon, que je vous invite à regarder, tout simplement, parce qu'en fait, le principe, c'est tout simplement, alors je vais pas tout vous spoiler, mais Alexa, le matin, donc une dame utilise Alexa pour savoir pourquoi la météo, je pense.
Jusque-là, ça va.
Jusque-là, ça va. Et puis, Alexa commence à répondre, se met à tousser, et puis, un seul coup, elle perd sa voix, Alexa devient aphone. Donc là, c'est la panique générale chez Amazon. On voit même Jeff Bezos, donc, qui intervient dans la pub, en disant, mais il faut trouver une solution. Et la solution, c'est de mettre des humains au bout du micro, qui vont répondre tout et n'importe quoi. Et alors c'est des personnes connues, donc c'est des acteurs connus. Alors il y a certaines célébrités américaines que je ne connais pas, apparemment une rappeuse. Donc on voit par exemple quelqu'un qui demande, mais joue-moi de la country, et puis la fille qui se met à rapper, il fait non, de la country, donc ça reste là-dessus. Il y a également Anthony Hopkins qui joue un petit peu, qui reprend son rôle d'Hannibal Lecter. Enfin bon, à voir, c'est assez du second, troisième degré. C'est étonnant que Amazon communique sur une pub en disant, bah, si mon produit marche pas, bah, c'est le bazar. Enfin, il pourrait ne pas marcher. Enfin, c'est à voir. C'est mon petit bonus. J'ai regardé deux, trois fois. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait kiffer. Voilà. Je vous invite
Je vais aller le regarder. Ça me fait penser un peu à, je crois que c'était la dernière keynote des développeurs par Apple,
oui,
qui mettait en scène une extinction des apps dans le monde, qui était assez drôle, même si en même temps ça faisait réfléchir, mais qui était assez drôle. J'ai l'impression que c'est un peu le même type d'humour, si je me trompe pas. Je l'ai pas vu, hein,
c'est ça. Après, c'est pas aussi catastrophique, il y a pas tout un
c'est ça,
le bouton d'enchaînement, c'est plutôt des petites scènes où les gens se retrouvent interpellés en disant, mais qui me parle, qu'est-ce qui m'arrive, quoi.
Ah, oh, bah écoute, je vais aller regarder. Mais j'ai vu aucune des séquences vidéo qui ont été pourtant longuement commentées, notamment la bande-annonce Netflix là lors du Super Bowl. Il va falloir que je regarde tout ça.
Ah, j'ai mis un peu de temps, je me suis posé là-dessus. C'était important.
Parfait. Bah, il faut se tenir au courant, ça. Oh,
bien sûr.
C'est notre obligation de veille à ce sujet-là. De mon côté, j'ai deux mini bonus, hein. Ça va aller très très vite, je pense. En fait, bon, probablement que beaucoup de podcasteurs, de poditeurs vont me jeter des tomates pourries à la tête, et après tout je les recevrai avec le sourire parce que ce sera peut-être mérité. Mais j'ai découvert, pas totalement, mais j'ai découvert PodCloud. Alors PodCloud, c'est quoi déjà? C'est une plateforme qui vous permet d'écouter, de découvrir des podcasts indépendants de manière très intuitive, et il faut le reconnaître, très très facilité. Il vous explique bien les choses. Je pense que n'importe qui, ne connaissant pas un podcast, on peut lui dire va sur PodCloud et t'en sauras plus. Et j'avoue que je connaissais de nom, j'y étais déjà allé à plusieurs reprises, je voyais des classements, je voyais qu'il y avait des référencements de podcasts, je voyais la démarche. Il y a aussi une une proposition de solution pour notamment les hébergements de d'émissions. Et je reconnais que j'y suis retourné l'autre jour et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un travail de dingue qui était fait dessus. Et que là où on se pose souvent des questions de dire comment est-ce qu'on peut faire pour démocratiser le podcast, pour le faire connaître de manière générale, je suis pas sûr qu'on ait encore aujourd'hui qui que ce soit trouvé la solution idéale. Ça serait d'ailleurs, je pense que les podcasts auraient explosé sinon. Mais en tout cas, je voulais juste louer le boulot qui était fait de leur côté. Et j'ai l'impression que si jamais vous voulez découvrir des émissions, si jamais vous voulez découvrir le podcast en général, bah, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller jeter un coup d'œil sur podcloud.fr parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu et c'est plutôt bien amené. La façon dont vous pouvez lire les émissions est bien faite aussi. Vous pouvez naviguer dans le site et continuer la lecture des épisodes que vous avez lancés. Donc, bah, allez jeter un coup d'œil. Je pense que ça peut un bon moyen d'occuper votre temps de cerveau disponible pendant que vous faites autre chose éventuellement. Et puis le deuxième bonus, c'est une chaîne YouTube. Alors vous savez, hein, dans Tech Café, mais de manière générale, nous les geeks, on aime bien les chaînes YouTube qui parlent d'astronomie, qui parlent d'espace, etc. Et évidemment, avec l'événement que je qualifierais d'historique qui a eu lieu hier du lancement de Falcon Heavy, ça achève de donner envie de se plonger encore plus dans ces sujets d'espace, de conquête spatiale, de folie des grandeurs, d'astronomie en général. Et il y a cette chaîne YouTube que j'ai découvert, que beaucoup connaissent peut-être, moi j'ai découvert il y a pas longtemps, qui s'appelle AstronoGeek et qui parle justement d'espace, qui parle de l'observation, de l'astronomie, de tout ce que vous pouvez imaginer qui puisse parler. La personne est plutôt reposante en plus. Enfin, moi j'aime bien consulter les vidéos et il y a notamment une vidéo qui dit sommes-nous seuls dans l'univers et qui repose les thèses qui font réfléchir, qui sont autant philosophiques que scientifiques sur sommes-nous seuls dans l'espace. Je trouvais ça magnifique. Je sais pas si tu connais cette chaîne, Gaëtan.
Non, je suis en train de découvrir ça et s'abonner. Voilà, parfait. Ça c'est fait. Merci beaucoup pour le bonus.
Eh ben merci à toi en tout cas Gaëtan d'avoir répondu présent à mon invitation pour cet épisode de Tech Café. Je voudrais quand même qu'on puisse rappeler à tout le monde où est-ce qu'on peut te suivre et où est-ce qu'on peut suivre tout ce que tu fais.
Bah tout simplement le plus simple c'est d'aller sur Twitter @gaëtan. Alors Gaëtan the Geek, ils vont remplacer le E de Gaëtan par un 3. Et The Geek. Et puis sinon, sur le site cotigeek.fr, enfin sur le blog cotigeek.fr, où sont hébergés dedans la plupart des podcasts. Voilà.
Et puis, allez, je te dois quand même un hommage, hein, là que je t'ai en face de moi virtuellement pour la petite anecdote du streetcast, mais j'en ai déjà parlé, hein, de la façon dont tu avais raconté cette mésaventure du drone Titanic, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Et allez regarder dans le flux du streetcast. Moi, je me souviens, c'est un moment qui m'a marqué il y a pas très longtemps et j'avais parlé à quel point ça m'avait appris à avoir du recul. J'avais eu un carton avec ma voiture, je crois, le lendemain où j'avais écouté ça. Et voilà, ça m'avait fait beaucoup philosopher. Donc parfois on peut philosopher avec nos aventures de geek, c'est intéressant.
Mais, en t'écoutant, ça m'a fait réfléchir en me disant c'est vrai que j'ai pris vachement de recul sur beaucoup de choses ces derniers temps.
C'était moi j'aurais pas réagi comme ça en tout cas. Voilà, et puis pour ma part, c'est Guillaume Vendée, vous le savez, hein, vous allez dans les notes de l'émission pour retrouver le profil de Twitter et puis le lien me concernant, mais si vous tapez Guillaume Vendée, vous retrouverez à peu près partout, je pense, là où je passe du temps. Et en tout cas, merci beaucoup à vous pour votre fidélité pour Tech Café, merci beaucoup pour avoir écouté, bien entendu, cet épisode jusqu'au bout, et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao à tous.
Salut.